Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Bienvenue dans votre émission Au-delà des apparences. Nous sommes sur le troisième volet de notre feuilleton avec les voisins d'abord, les voisins de lotissement, pas très loin de Toulouse. Autour de la table, c'est un peu des amitiés hein, qui se sont nouées au fil du voisinage, puis au fil des rencontres, des amitiés au service d'autrui. Donc, à vue de nez, plus de 60 ans à peu près.
Oui,
mais pas loin.
Oui,
ils montent leur première colocation à usage de ceux qui cherchent un abri, une compagnie, un échange, un troc de service ou un troc de qualité. Ils ont la niaque, la volonté, l'argent. Ils n'avaient pas la maison. Un bailleur s'est présenté à eux. Ça ressemble à un vrai conte de fées, sauf que lui, il ne veut pas dire conte de fées. Il veut dire défi. Mais ça, on y reviendra parce que ce que je voudrais savoir d'abord, c'est qui ? Quels sont les gens, la cible, les précaires de tout poil, qu'ils soient en solitude, en argent ou en logement ? Comment vous les trouvez ? Comment vous les avez trouvés ? Comment vous les sélectionnez ? Par quel truchement et par quelles associations vous passez ?
Alors, ce qui s'est passé, quand on a commencé l'association, on était tout feu, tout flamme, mais on s'est rendu compte que très vite, que ça allait être très long à mettre en place. Et pour ça, il a fallu tisser des liens avec plusieurs associations en visant des profils différents, donc les SDF, les réfugiés, les personnes âgées, les étudiants. Et pour ça, on est rentré en contact avec de nombreuses associations. Et je laisse la parole à Christophe, puisque c'est lui qui a mené ces actions de terrain très, très profondes.
Et très complexes, finalement, quand on se heurte à des associations. Enfin, il y a des associations, évidemment, qui ne font que ça, et heureusement qu'elles existent, c'est une évidence. Mais il y a aussi une porte fermée des associations où, parfois, votre petitesse et votre petite idée, personne ne l'attend, personne n'en veut vraiment, finalement. Même si vous arrivez en disant, j'ai 400 000 euros, qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Alors, oui et non. Chacun a déjà sa problématique et son nez dans le guidon. Et ça, une fois qu'on arrive avec son enthousiasme, avec son idée, comme un chien dans un jeu de quilles...
Il demande à voir.
Et puis, finalement, chacun... C'est comme une association, c'est comme une entreprise. Hein, chacun a son canevas, sa routine... son business plan, finalement, et on arrive avec des idées un peu différentes et on s'aperçoit qu'il va falloir un peu, pas jouer des coudes, mais montrer qu'on peut avoir sa place dans le tissu social, puisqu'on est, on est là-dedans, nous, existants.
C'est un peu comme dans une entreprise, des gens qui ont de bonnes idées, il y en a plein. Vous tapez un coup de pied dans un arbre, il y en a 10 qui tombent. Le problème, c'est voir dans la continuité. Avoir une bonne idée, c'est bien, mais avoir suffisamment de niaque pour l'amener au bout et avancer sur le projet, c'est autre chose.
Après, ce qui a été vite rassurant dans nos contacts, quand même, c'est qu'on a vu, que notre idée était effectivement originale, que les nombreuses associations qu'on a rencontrées avaient toutes des domaines d'intervention précis, mais qui n'étaient pas identiques aux nôtres.
Donc, et hébergement d'urgence, par exemple, ouais, ou alors passer justement dans un bail social, ouais, ou voilà, bail glissant. Enfin,
cité personnes âgées et étudiants, par exemple, qui existe aussi. Enfin, tout ça nous était un peu différent. Et surtout que ce qu'on proposait pouvait être complémentaire. Beaucoup nous ont dit, par exemple, les gens qui s'occupent de sortir les gens de la rue, ils disent, vous pouvez être intéressant. Nous, en fin de parcours, c'est-à-dire quand on les a remis sur les rails après plusieurs solutions d'hébergement et de foyer, à un moment donné, on est obligé de les relâcher. Ils sont reconstruits, mais ils n'ont pas envie de rester seuls. Là, on peut intervenir. Ou alors en amont, très en amont, c'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve d'un seul coup dans la précarité avant de plonger dans des addictions, etc., on pourrait lui trouver une solution immédiatement. Et là, on pourrait aussi intervenir. Ça nous a rassurés. Après, sur la mise en œuvre, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de réponses, parce que comme on fait quelque chose, on a un projet qui est très original, forcément, la manière de le mettre en œuvre, personne n'avait la recette.
Et même la relation avec les institutions, par exemple, n'a pas été très fructueuse ?
Bon, on a contacté beaucoup d'institutions qui ont bien répondu. Hein, disons que ils ont fait leur travail. Hein, et on a pu avoir des rendez-vous, on a pu avoir le soutien de services techniques. On avait beaucoup de questions juridiques notamment. Mais là encore, on rentrait pas dans la case, quoi. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup de réglementations, beaucoup de systèmes qui sont toujours faits a posteriori. Quand les projets ont existé, on a essayé de faire évoluer les systèmes pour pouvoir y répondre. Quand on est tellement dans l'originalité, on s'aperçoit que là aussi, on bute sur des manques. Hein.
Et, voilà. Et par rapport aux institutions, on s'est un peu trouvé devant la problématique, je disais, du jeune diplômé à qui on demande 10 ans d'expérience avant de l'embaucher. Parce que les institutions nous disaient, mais attendez, c'est réaliste votre truc, c'est pas réaliste, on va pas mettre des fonds dans quelque chose dont on n'est pas sûr que ça fonctionne.
Et pourquoi vous mettez votre maison, vous, alors, dans ce fonds qui n'est pas sûr de fonctionner?
Ben, je pourrais dire que je prends pas beaucoup de risques parce que la maison, je la donne pas, je la garde. J'en reste, donc. Ce qu'ils m'ont demandé, c'est d'être un bailleur normal, j'allais dire, qui tient à toucher ses loyers et un loyer de niveau correct, alors que dans la pratique, j'étais prêt à être plus social en ayant au moins un bail solidaire, un bail. Et ça, l'association a dit, ça ne sera pas suffisamment généralisable. Donc, voilà. On veut que
c'est pas notre modèle.
On veut avoir un bail type, t'as ta sensibilité, mais on veut que des gens qui n'aient pas cette sensibilité puissent nous suivre.
Oui, c'est fondamental ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que là, on va faire une opération pilote. On a notre première opération, une opération pilote.
Une maison témoin.
Voilà, exactement. La cellule témoin, dans des conditions témoins. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir... On travaille avec un filet, on a la chance d'avoir un bailleur qui est aussi...
Confiant.
Qui est confiant et qui est motivé par l'association. Mais on va le faire au maximum dans les conditions normales, puisque notre projet, c'est bien sûr de le reproduire, et de le produire en grand nombre, et de reproduire aussi géographiquement. Hein. Là, ce qu'on fait... c'est sur Toulouse, mais on envisage de le faire aussi en milieu rural, par exemple. Il y a plein de choses qu'on veut essaimer par la suite. Alors, si on démarre avec un projet où on est dans des conditions qui ne sont pas tout à fait celles qu'on va rencontrer par la suite, ce n'est pas tout à fait la chose qu'on veut mettre en place. Quoi.
Quand vous imaginez plus loin, c'est par exemple des travailleurs qui ont du mal à se déplacer pour aller à leur travail. Et si vous avez une maison à 50 km, ça pourrait être un nouveau projet de colocation, par exemple.
Oui, et puis il y a aussi il y a beaucoup de communes moyennes où ils ont des logements qui sont disponibles. Hein. On peut avoir des communes, par exemple, qui mettent à disposition et qui cherchent à revivifier quelque chose. Ça, c'est aussi une cible qu'on envisage, mais... quoi qu'il arrive, il faudra qu'on puisse verser un loyer normal à un bailleur qui attend un loyer. Quoi. Ça,
c'est alors, clair. Qui peut m'expliquer le fonctionnement, ce que vous avez monté comme fonctionnement pour ces cellules de vie, en fait, oui. En termes de juridique, en termes d'argent, en termes de garantie, entre guillemets.
Donc là, on est en pleine construction de cet aspect-là. Donc l'idée, c'est de... s'adresser à des bailleurs du privé, louer leur maison et nous, de faire une sous-location des personnes en colocation.
C'est donc l'association qui loue et qui ensuite sous-loue à des occupants qui ont un statut un peu différent. Le bailleur n'est en contact que... avec l'association, a priori. Voilà.
Et les garants sont qui ?
Par contre, l'association ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que nous, on se bâtit au départ sur ce qui va être habitat inclusif. Mais l'habitat inclusif, il est encadré, si vous voulez, pour les personnes handicapées et les seniors. Et nous, on a étendu à la précarité. Mais la précarité, ce n'est pas nous qui la définissons. La précarité, c'est la personne précaire qui peut être précaire parce qu'elle est isolée, précaire parce qu'elle manque d'argent, précaire...
Mais qui sera son garant ?
Qui sera son garant ? Alors ça, c'est un petit peu technique. Hein. On a, pour certains, la garantie visale, qui est une garantie d'État. Pour d'autres, ça peut être un garant privé. Pour d'autres, ça peut être le FSL.
C'est-à-dire ?
Le Fonds de solidarité logement. ça peut être, si vous voulez, c'est en ça que le montage est complexe. Pourquoi ? Ben parce que il est très varié et chaque cellule ne va pas se ressembler.
Et monsieur le bailleur, ça vous met en confiance ?
Personnellement, ça ne m'inquiète pas. Bon, voilà.
Sachant que quoi qu'il arrive, le bailleur, lui, il connaît que l'association. Il connaîtra que l'association et c'est l'association qui s'engage de toute façon. Nous, on va faire attention, nous, en tant qu'association, de construire la cellule de vie pour s'assurer qu'on a suffisamment de garanties qui viennent du statut, on va dire, de chaque membre de la colocation. Mais quoi qu'il arrive, on s'engage vis-à-vis du bailleur. Nous, on signe un contrat avec le bailleur et le bailleur, il ne voit que l'association l'un pour l'autre. Donc il est garanti par l'association l'un pour l'autre. C'est nous qui prenons quand même un risque. Hein.
Et c'est pour ça que vous avez poussé votre épouse, Christophe Lefebvre, a passé son diplôme de médiateur social. Ça, on en parlera dans la quatrième émission, puisque nous sommes déjà au bout de la troisième. Et je vous propose de terminer en beauté avec « Vivre encore » de Lavilliers.
Quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil comme une blessure, fais place à la nuit, quand la mort rassure. Faut vivre encore. Combien de ratures, combien de nuits blanches, pour toucher de près ce chant qui monte. Ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli. Et vivre encore. Vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi. Vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur!